France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Lundi 22 avril, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonas, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le Sri Lanka et ce bilan toujours provisoire au lendemain des attentats contre des églises en pleine messe de Pâques et contre des hôtels de luxe. 290 morts, 500 blessés, 24 hommes arrêtés, mais toujours pas de revendications. Les autres titres, Bernadette.
L'Ukraine à l'heure du dégagisme. L'humoriste Zelensky, novice en politique, élu président, terrassant le sortant avec 72% des voix. Un mois des européennes, semaine spéciale Europe sur France Inter. Journaux, émissions se mobilisent. Dans cette édition, le point sur la croissance plutôt ralenti en Europe. Dans ce journal encore, les gilets jaunes, sans illusion avant les annonces présidentielles. Quand la maîtrise Notre-Dame de Paris se cherche un nouvel écrin. Et le PSG, champion de France, sans surprise et sans euphorie.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Mon invité,
c'est Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire du diocèse de Versailles. Ces Pâques étaient assombries par l'incendie de Notre-Dame, elles sont sanglantes au Sri Lanka. Quelle espérance pour un monde en feu? Tweet de Monseigneur Valentin hier et sa réponse ce matin à 7h50 sur France Inter.
À 8h20, un exercice d'histoire du temps présent, une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, analyse d'une émotion collective. Et pour comprendre ce que cet événement dit de notre rapport à notre passé, un invité dans le grand entretien, l'historien Patrick Boucheron. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Quelques minutes de terreur et ce matin, un bilan qui grimpe encore, effroyable. 290 morts, 500 blessés, même en 30 ans de guerre civile. Le Sri Lanka n'avait pas connu une telle séquence de violence. Coup sur coup, hier, en plusieurs endroits de l'île, 8 attaques coordonnées visent 3 églises, elles sont bondées en pleine messe de Pâques, et 4 hôtels de luxe. Audrey Tison, bonjour.
Bonjour.
Alors, on fait le point avec vous ce matin sur les tout derniers éléments de l'enquête. Plusieurs personnes arrêtées.
Oui, on parlait jusqu'à il y a peu de 13 personnes arrêtées. À l'instant, une communication nous indique que 24 personnes ont désormais été arrêtées au Sri Lanka. Toujours pas de revendications, mais cette série d'arrestations, donc, le Premier ministre indique qu'une partie de ces hommes appartiennent tous au même groupe radical. Pas de précision sur la nature de ce groupe. Depuis hier, les autorités diffusent les informations au compte-gouttes pour ne pas attiser les tensions dans le pays. Parmi les quelques éléments d'enquête qui ont filtré, on sait que dans au moins 2 des 8 lieux touchés hier, ce sont des attaques suicides qui ont eu lieu. L'un des kamikazes s'est fait exploser dans le restaurant d'un grand hôtel en plein buffet dominical. L'autre a agi un peu plus tard. C'était lors d'un raid de la police contre une maison de la banlieue de Colombo où se trouvaient des suspects. Plusieurs policiers sont morts. Parmi les pistes évoquées, celle d'un groupuscule islamiste, le NTJ, National Tawhid Jamaa, qui avait été repéré par les services de renseignement. Ils envisageaient des attaques suicides contre des églises notamment, mais d'autres pistes sont ouvertes. Des bouddhistes extrémistes ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient être violents, très violents, mais ils se sont surtout attaqués aux musulmans ces dernières années.
Merci Audrey Tison, et j'ajoute qu'une bombe artisanale a été désactivée près de l'aéroport de Colombo. L'aéroport reste ouvert, mais bien sûr sous haute sécurité. D'importantes files d'attente de gens s'y forment, ils fuient le pays. Le Quai d'Orsay a mis en place d'ailleurs un numéro pour les Français qui se trouveraient au Sri Lanka, le 01 43 17 51 00. Je rappelle qu'il n'y a pas de Français parmi les victimes.
À l'étranger encore, en Ukraine, le triomphe d'un acteur, Bernadette.
Un triomphe sur la scène, mais politique, car l'acteur Volodymyr Zelensky remporte la présidentielle avec plus de 72% des suffrage. Il passe en effet de la fiction à la réalité. Jusqu'à présent, il jouait dans une série télé le rôle d'un prof devenu président par surprise, porté notamment par ses élèves. D'ailleurs, dans la véritable élection aussi, 45% des moins de 25 ans ont voté pour lui. Connu par l'écran, c'est là encore qu'hier soir, il a partagé sa victoire. Nathanaël Charbonnier.
C'est avec la télévision que Zelensky s'est fait connaître et c'est par la télévision qu'il est devenu hier le nouveau président ukrainien.
3, 2, 1.
Volodymyr Zelensky, Vladimir en russe, comique de profession, acteur au sourire en coin, a pris la parole aussitôt élu pour remercier ses électeurs. Nous l'avons fait ensemble. Zelensky a commencé ses remerciements en rappelant son slogan de campagne. Ensuite, il a remercié sa famille, sa femme, ses équipes. Le moment est historique pour le nouveau président et pourtant tout semble hésitant. Zelensky lit un papier alors que des confettis tombent du ciel. Un discours d'une minute trente qui ressemble plus à une cérémonie des Césars qu'à un discours politique. L'ancien comique, aujourd'hui président, est toujours souriant mais semble dépassé par le moment historique qui s'impose à lui. À 41 ans, après une campagne faite de blagues et de dérisions, Zelensky va maintenant se retrouver rapidement confronté à la réalité. Lors d'une mini-conférence de presse, il a expliqué qu'il voulait relancer le processus de paix impliquant la Russie et visiter l'Ukraine à la rencontre du pays. Un peu plus loin dans Kiev, Petro Porochenko, le président sortant et vaincu, prenait lui aussi la parole pour saluer la victoire du nouveau président ukrainien. Le passage de témoins se fera dans le mois à venir. À Kiev, Laurent Maketti, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et le premier président européen a décroché son téléphone pour féliciter le nouveau président polonais. Eh bien, c'est Emmanuel Macron.
7h06, c'est à un mois maintenant des élections européennes. France Inter lance une semaine spéciale Europe.
Invités, débats, décryptage, aussi bien dans les programmes que dans les journaux. Dans cette édition, on fait le point sur le contexte économique dans lequel les Européens vont voter pour leurs députés le 26 mai prochain. Delphine Simon, il n'est pas vraiment bon ce contexte. Berlin tous, l'Europe sans rhume.
C'est un trou d'air. La Chine ralentit, les États-Unis se protègent. Résultat, la demande mondiale faiblit. Première victime, l'Allemagne. 45% de la richesse produite outre-Rhin repose sur les exportations. De plus, l'industrie automobile allemande doit s'adapter à de nouvelles normes anti-pollution. Berlin revoit à la baisse sa prévision cette année. Ce sera un demi-point de croissance, trois fois moins que prévu, mais aussi trois fois moins que la France. Moins exposée au commerce international, l'économie française devrait bénéficier d'un sérieux coup de pouce avec les mesures gilets jaunes, le pouvoir d'achat pourrait augmenter comme jamais depuis 10 ans selon l'OFCE, plus 850 euros en moyenne par foyer. A l'inverse, pour l'Italie, la dégringolade est violente. Son économie fait quasiment du surplace, 0% sous le coup des problèmes budgétaires. Quant au Royaume-Uni, son dynamisme est au plus bas depuis la crise de 2008. Un trou d'air qui touche à des degrés divers toute l'Union européenne. Il pourrait être momentané selon certains économistes car l'inflation reste faible, le taux d'emploi élevé et les taux d'intérêt vont rester bas, promet la Banque Centrale Européenne.
Semaine spéciale donc Europe sur France Inter avec un rendez-vous dès 9h10 chez Augustin Trapenard. Boomerang, la marche de l'histoire de Jean Lebrun à 13h30. Au téléphone sonne ce soir, l'Europe sert-elle à quelque chose? Et puis toute la semaine à 20h, l'heure bleue de Laura Adler. Ne manquez pas le feuilleton consacré à Simone Veil. Delphine Simon le disait à l'instant, le milliard débloqué en début d'année pour répondre aux gilets jaunes devrait doper la croissance en France. Pour autant, d'autres mesures sont attendues. Après le grand débat, Emmanuel Macron doit les annoncer jeudi. Lundi dernier, il avait dû reporter, on le sait, son allocution à cause de l'incendie de Notre-Dame. Certaines de ces annonces ont fuité, mais pas de quoi apaiser la colère des gilets jaunes. À entendre ceux à qui vous avez tendu le micro, Yann Gallic, à Paris, lors de leur 23e samedi de mobilisation.
Les gilets jaunes ne se font guère d'illusions sur les mesures qui seront détaillées jeudi par Emmanuel Macron, à commencer par l'une des plus symboliques, la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Une proposition sans intérêt, selon Annie, retraitée de l'éducation nationale.
La suppression de l'ENA, j'ai entendu à aucun moment les gilets jaunes le demander. J'aimerais qu'ils commencent d'abord par répondre aux choses qui sont demandées.
Le président de la République veut également réindexer sur l'inflation les retraites en dessous de 2000 euros.
Les retraites moins de 2000 euros, mais est-ce que c'est pour une personne seule? Est-ce que c'est pour un couple? Parce que si c'est comme la fausse annonce, l'augmentation du SMIC qui n'en était pas une et qui ne bénéficie pas à tous les revenus, à tous les foyers, c'est scandaleux.
Emmanuel Macron serait prêt à mettre en place des RIC, des référendums d'initiative citoyenne sur certains sujets d'intérêt locaux. Mais les gilets jaunes comme Arnaud veulent aller beaucoup plus loin dans la démocratie directe.
On ne veut pas de ça, on veut un RIC intégral. Qu'on puisse vraiment le peuple décider par soi-même. On veut que ce soit nous, le peuple, qui contrôlons tout le processus du début à la fin. Soit ils nous filent le RIC, soit ils se barrent. Et là, on sera heureux. C'est les deux options qui nous plaisent, c'est tout.
Les gilets jaunes attendent maintenant la manifestation du 1er mai en espérant qu'Emmanuel Macron finira par entendre leurs revendications.
Et après les « suicidez-vous » scandés à la face des policiers à Paris, samedi, une enquête est ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Après l'incendie de Notre-Dame, un cœur sans cathédrale.
La maîtrise Notre-Dame de Paris, elle se retrouve sans lieu de concert, une partie de ses instruments perdus ou endommagés. La maîtrise, aussi vieille que la cathédrale, spirituellement attachée au lieu, plus encore peut-être viscéralement liée au lieu. Mais pas question de s'éteindre. Julie Pietri.
Il a passé la moitié de sa vie à chanter dans la cathédrale. Mathieu Valenzic, 22 ans, a commencé enfant à l'âge de 11 ans.
11 ans à côtoyer la cathédrale quasiment quotidiennement, ça fait drôle de se dire qu'il y aura un changement maintenant. On a tous pris un coup énorme. Après, effectivement, je pense que nous, on doit continuer à faire en sorte que l'esprit de la cathédrale subsiste à travers nos chants.
On était très liés. On est très liés à Notre-Dame.
Clémence Vidal, mezzo-soprano.
Ça va être difficile justement de s'en détacher momentanément. Mais voilà, on continue de chanter ensemble et c'est l'essentiel.
L'effervescence de la Semaine Sainte s'achevant, l'heure est à une sorte de premier bilan. Henri Chalet, directeur de la maîtrise Notre-Dame de Paris.
Évidemment, du point de vue des instruments, c'est pas simple pour nous parce que le grand orgue, même s'il n'a pas pris l'eau ni le feu, il va falloir le restaurer. On a perdu un piano à queue qui était dans les sous-sols pour les répétitions. On a énormément d'invitations des églises parisiennes pour nous accueillir temporairement. Je n'ai pas trop le temps de déprimer.
La maîtrise, qui devait jusqu'à l'incendie de la cathédrale assurer près de 1000 offices par an, va se réorienter un temps vers l'extérieur, avec le projet de rayonner avec un concert chaque semaine en France et partout dans le monde, auprès de formations prestigieuses.
Et parmi les concerts prévus, il y en aura un le 4 juin, ici à l'auditorium de Radio France, avec la maîtrise de Radio France. En sport, le PSG, champion de France pour la 8e fois de son histoire. Pas de surprise, on le savait avant même la victoire hier sur Monaco 3-1. Et pourtant, Fanny Lechevestrier, le cœur n'y était pas vraiment hier au Parc des Princes.
Un 8e titre de champion pour le PSG, ce n'est pas rien. En France, seuls Saint-Etienne et Marseille ont fait mieux. Et pourtant, au niveau de l'ambiance au Parc des Princes, au coup de sifflet final, cela donne cela. Aucune euphorie ou de scène de liesse avec un speaker obligé de donner de la voix et une sono bien forte pour masquer le manque d'entrain du public presque blasé avec des supporters qui restent en tout cas sur leur faim.
Avec l'équipe qu'on a, c'est un minimum d'être champion.
Un petit peu de joie, mais un petit peu de tristesse aussi par rapport à la Ligue des Champions. Quoi. On n'a pas oublié, quoi. Non, c'est amer encore. Un petit peu les boules. Ouais. Après, ils sont champions de France, c'est bien, mais bon.
Et si quelques joueurs ont bien fait couler le champagne à la fin du match à l'abri des regards, ce n'était pas non plus l'hystérie. L'entraîneur Thomas Tuchel comprend, même s'il appelle à ne surtout pas banaliser ce titre.
Vous avez raison. Dans le stade, c'était pas une ambiance que peut-être tu es champion pendant les derniers matchs. Mais c'est un peu comme ça. Avec des clubs comme PSG, ils ont gagné le championnat année après année. On a l'impression que c'est normal, mais c'est pas normal.
Mais même lui semblait avoir du mal à s'en convaincre, parlant d'une fête que si Paris parvient à décrocher samedi la Coupe de France.
Elles n'ont pas le titre, pas encore, mais elles ne sont pas tristes. Les filles de la Fed Cup, les Bleues, elles sont en finale de la Fed Cup. Ce sera en novembre.
Merci Bernadette Chamonaz. 7h13, la route.